Il est 8h20, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers, dont Vladimir Poutine, ont annoncé leur venue demain pour l'hommage solennel à Jacques Chirac. Cette messe à midi en l'église Saint-Sulpice à Paris. Emmanuel Macron sera là, bien sûr, mais aussi trois anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Depuis trois jours, des centaines de personnes patientent des heures et des heures dans de longues files d'attente pour écrire leurs sentiments pour Jacques Chirac sur les pages des livres d'or, registre de condoléances installé dans le vestibule du Palais de l'Élysée. Cet après-midi, hommage populaire à Jacques Chirac à 14h, aux Invalides à Paris. Avec Patricia Martin, nous recevons Jérôme Jaffray. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po. Lorsqu'il a été président, Jacques Chirac fut souvent impopulaire. Aujourd'hui, sa mort provoque une très grande émotion. On se souvient, dès qu'il a quitté l'Élysée en 2007, il est devenu la personnalité politique préférée des Français. Comment expliquez-vous cela, Jérôme Jaffray ?
Alors, pour l'émotion que suscite la mort de Jacques Chirac, il faut bien voir que le mot de Xavier Bertrand est juste. C'est l'un des derniers géants de la politique française. Et c'est une carrière exceptionnelle, la carrière de Jacques Chirac. C'est 40 ans de carrière politique. Il a été nommé au gouvernement en 1967, il a quitté l'Élysée en 2007, 40 années d'une carrière politique exceptionnelle. La vie de Jacques Chirac, c'est un roman de cap et d'épée, où il tenait d'ailleurs en général l'épée. En particulier face à ses rivaux, mais c'est donc une histoire extraordinaire. Et puis je dirais aussi que Jacques Chirac a été auréolé d'une certaine façon par la maladie. C'est-à-dire que cette grande carcasse qui menait une vie trépidante, il avalait les kilomètres et les têtes de veau, et qui brutalement était touché devant tous les Français par la maladie, par l'affaiblissement. Le pays en souffrait de voir Jacques Chirac dans cet état, et c'était un élément de sa popularité. Et puis je dirais, il y a eu beaucoup de Jacques Chirac. Le dernier Jacques Chirac, celui qui a battu Jean-Marie Le Pen en 2002, après a porté les valeurs de la République en permanence, et des millions d'électeurs de gauche, par exemple, qui jamais n'avaient envisagé dans leur vie qu'ils pourraient voter Chirac, ont dû voter Chirac le 6 mai 2002 pour battre Jean-Marie Le Pen. Des millions d'électeurs ont dû aller vers Jacques Chirac. Donc il y a cette confrontation du pays avec sa propre histoire, des électeurs avec leur propre vote, et puis ce parcours de géant politique, tout ça s'additionne et fait que ça renvoie tout le monde à l'histoire de France, à l'histoire récente et à sa propre histoire.
Vous avez le sentiment que c'est l'homme qui est très populaire, plus que le président ?
Assurément. La dimension de l'homme est capitale. On le voit dans le sondage qui paraît aujourd'hui dans le journal du dimanche, le sondage de l'IFOP. Ce qui est mis en avant, c'est le côté sympathique de Jacques Chirac, c'est l'élu de terrain, c'est celui qui savait parler aux Français, s'adresser aux Français et caresser l'électeur interminablement. Mais le président, il y a des choses qui restent quand même. Et ce qui me frappe dans tous les sondages qu'on peut lire, c'est le refus d'entraîner la France dans la guerre de l'Irak. Ça reste quelque chose, une décision fondamentale. Chirac, il n'a pas toujours été d'une parfaite fidélité au gaullisme, on pourra en reparler, mais sur le plan de la politique extérieure, il est resté fondamentalement gaulliste, et en particulier l'indépendance à l'égard des États-Unis, la capacité de dire non aux Américains dans l'affaire de 2003 était un ressort fondamental. Tous les électeurs de gauche qui avaient voté Chirac en 2002, les malgré eux du chiracisme, se sont dit « bon ben notre vote sert à quelque chose ».
Jérôme Jaffray, vous évoquez ce sondage de l'IFOP. Je rappelle, Jacques Chirac est considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République à égalité avec le général de Gaulle. C'est ce sondage IFOP publié aujourd'hui dans le journal du dimanche. Est-ce que Jacques Chirac vous a stupéfié dans son art de rebondir, de surmonter les crises, dans sa façon de conquérir le pouvoir, d'éliminer ses rivaux, dans sa façon de mentir ?
Ah, écoutez, c'est ce que je disais sur le roman de cap et d'épée de Jacques Chirac. C'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Chirac, il a été de formation gaulliste, mais en même temps, je dirais qu'il était radical socialiste, c'est-à-dire une extraordinaire capacité d'adaptation politique. Et puis, il ne faisait pas de cadeaux, effectivement, dans la vie politique. En 1974, il abandonne Jacques Chaban-Delmas pour soutenir Giscard et l'aider à être élu. Et puis ensuite, il va abandonner Giscard alors qu'il est son premier ministre et le combattre férocement. avec un mauvais calcul. Il croyait qu'en 1980, la victoire de Mitterrand provoquerait un raz-de-marée de droite aux législatives qui suivraient. Ben, il n'en a rien été, mais il a remonté sur son cheval. Il est devenu le chef de l'opposition, deux fois Premier ministre, président de la République, réélu président de la République. La conquête de la mairie de Paris est une opération fantastique en 1977. Giscard avait désigné Michel Dornano, qui avait annoncé ce qu'était son ministre, et qui avait annoncé sur le perron de l'Élysée sa candidature. Donc il était le candidat officiel. Et Chirac a décidé d'être candidat contre en partie les barons gaullistes de Paris, et il l'a emporté à la hussarde. Et puis il a été battu par Mitterrand en 1988 à la présidentielle. On l'a cru à ce moment-là un peu fini, et il est reparti aussi. Et enfin, souvenons-nous de la période 93-95, où il était abandonné de tous, et il a eu l'énergie extraordinaire de repartir à l'assaut.
Mais Jérôme Jaffray, certains sont allés jusqu'à se demander si la politique était au fond sa véritable passion. Dans le film de Patrick Rothman, Philippe Séguin dit qu'il est encore plus mystérieux que François Mitterrand. C'est un homme qui a aussi douté, qui ne s'aimait peut-être pas tant que ça, qui a fait à certains moments, vous l'avez évoqué à l'instant, même des dépressions. Lui, l'enfant gâté, le fils unique, qui disait « j'étais prioritaire ». Donc il y a là effectivement le télescopage d'éléments contradictoires.
Et c'est ce qu'effectivement disent beaucoup de gens qui ont très bien connu Jacques Chirac, c'est qu'il avait d'abord beaucoup de pudeur et qu'il était assez mystérieux, il ne se livrait pas vraiment, il restait à la surface des choses, avec les drames effectivement intimes, le drame de sa fille aînée bien entendu, qui a beaucoup compté. Mais pour les Français, ils avaient le sentiment que Chirac était un type ouvert, sympathique, qui se livrait à eux, alors que la réalité était effectivement infiniment plus complexe. Par exemple, ce goût des arts premiers chez Chirac, qui fait le musée du Quai Branly, devenu musée Jacques Chirac, effectivement, c'est quelque chose que les Français n'imaginaient pas. On prêtait à Jacques Chirac le fait qu'il n'aimait que la musique militaire et qu'il ne lisait que des romans policiers. C'était effectivement beaucoup plus compliqué.
Jérôme Jaffray, retour à la politique. A-t-il été un grand démagogue, Jacques Chirac ?
Alors, si vous voulez, je dirais, pour parler plus poliment ce jour d'hommage, que Jacques Chirac est celui qui a mis le plus de distance entre les campagnes électorales et l'exercice du pouvoir, quel qu'il soit. C'est-à-dire, et là, évidemment, on songe à la campagne de 1995, qui a été une campagne, la fameuse campagne de la fracture sociale qui l'a portée à l'Élysée. Je dirais, avec le recul, que c'est une campagne de gilets jaunes, avec un quart de siècle d'avance, qui est quand même une performance assez inouïe. Chirac a fait campagne contre Balladur en dénonçant les élites, la pensée unique, tout ce qui va mal en France, et en proposant des solutions totalement contradictoires. Son slogan, c'était « la feuille de paix n'est pas l'ennemi de l'emploi ». Et derrière, l'exercice du pouvoir devient beaucoup plus difficile, parce que la réalité, les Français ont cru en 95 que Chirac élu, ma foi, tout irait bien, le miel coulerait en abondance. Et puis, il y a eu le plan Juppé, la demande de réforme de l'assurance maladie, des régimes spéciaux. Les Français ne pouvaient pas comprendre, entre la campagne électorale telle qu'elle s'était déroulée et ce que faisaient Chirac et Juppé au pouvoir quelques mois après, c'était le choc absolu.
Mais on lui a reproché d'être une girouette, il disait lui-même « c'est pas ma faute si j'ai une gueule de droite ». Il était ami avec Michel Rocard quand ils étaient à Sciences Po, il trouvait même que les rats de soc étaient trop à droite. Est-ce que lui n'était pas trop à gauche, ou en tout cas au centre, dans son propre camp, le tiers-mondiste, l'écolomondialisme, toute l'histoire de la fracture sociale, la responsabilité de l'État français, enfin, plein d'éléments.
Il a obligé effectivement la droite à avoir un autre regard sur un certain nombre d'éléments. Alors, l'a-t-il fait par opportunisme politique ou par sentiment profond ? Moi, je constate que Chirac était surtout de gauche, si vous voulez. D'abord, par exemple, quand il combattait Giscard, en 76, il sort le travaillisme à la française, qui effectivement est une formule qu'il propose à la droite assez étonnante. Il était très à gauche quand il combattait Balladur, en 95, la fracture sociale, là, il fallait faire ça. Et puis, le fait d'avoir dû affronter Jean-Marie Le Pen dans la dernière période, fait qu'il s'est transformé, je dirais, en parangon des valeurs de la République, et c'était une nouvelle mutation. Mais il y a eu d'autres moments de droite, vraiment de droite, de Chirac. D'abord sous Pompidou, dont il était très très proche de Pompidou.
Mais c'était... là, il y a aussi eu Marie-France Garot et Pierre Juillet,
voilà,
qui l'ont peut-être poussé dans ce sens-là.
On peut pas dire que ces deux-là étaient de gauche, franchement.
On peut pas vraiment le dire.
Je rappelle qu'on parle là de deux conseillers de l'ombre de Georges Pompidou, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là.
Et qui ensuite, on conseillait, et ensuite on conseillait Jacques Chirac pendant plusieurs années.
Politiquement, non, même
oui,
ils l'ont
par
fait.
Exemple, Pierre Juillet a joué un rôle décisif dans le fait que Chirac devienne maire de Paris. Mmh. C'est Pierre Juillet qui lui souffle l'idée, qui oriente la campagne. Et la conquête de la mairie de Paris en 77 est un élément décisif dans l'itinéraire de Chirac. Il reste maire de Paris 18 ans. Il est réélu deux fois en faisant le grand chelem. Songeons-y, il gagne tous les arrondissements de Paris en 1983, 1989, même ceux de l'Est, même les plus populaires. Il fait élire Juppé dans le 18e arrondissement de Paris. Pensez-y.
Jérôme Jaffray, est-ce que Jacques Chirac a été un président réformateur ou, disons, un gestionnaire pragmatique ?
Écoutez, pas énormément de réformes. Hein. Chirac a fait en tout 7 ans de mandat. Vous me direz, normal, un président est élu pour 7 ans. Non, il a présidé 12 ans. Alors ça veut dire quoi, 7 ans de mandat ? Il a fait 2 ans seulement dans son premier mandat, avant l'entrée dans la cohabitation, la dissolution et la cohabitation avec Jospin pendant 5 ans. Mais la cohabitation, c'était l'élixir des présidents de la République pour se faire réélire. Ça leur permettait d'être à la fois chef de l'État et chef de l'opposition, et de pouvoir étrangler le Premier ministre nommé. Chirac avait subi ça avec Mitterrand entre 86 et 88. Il a fait subir ça à Jospin en 2002. Et puis son deuxième mandat, le quinquennat de 5 ans. Mais les conditions même de son élection contre Jean-Marie Le Pen faisaient que de toute façon, on n'était pas dans une situation de bouleversement social et politique. La politique étrangère intéressait davantage Jacques Chirac, me semble-t-il, avec en particulier, on l'a rappelé, le refus de la guerre d'Irak. Donc il ne s'est pas lancé dans de grandes réformes. Et puis il y a eu le traumatisme de 95, des grandes grèves. Encore en 2006, Villepin, son premier ministre, se lance dans le CPE, le contrat première embauche pour les jeunes, et Chirac ne cesse de le pousser à abandonner, à reculer face aux manifestations de jeunes. La mort de Malik Oussekine en 1986, un jeune qui avait été matraqué par les policiers, avait été un traumatisme profond.
Est-ce qu'il était un authentique héritier du gaullisme ?
Alors, il est porté par le gaullisme, bien entendu, mais là, je serais plus nuancé. Je dirais que pour le gaullisme, la politique étrangère du général de Gaulle, il l'a poursuivi, incontestablement, une politique plutôt pro-arabe, une politique de bonne relation avec la Russie. Et ça n'est pas un hasard si Vladimir Poutine vient demain rendre hommage à Jacques Chirac.
Vladimir Poutine qui a dit de Jacques Chirac que c'était un dirigeant sage et visionnaire.
Oui, c'est un compliment. C'est un beau compliment, en effet. Mais alors, par exemple, sur le plan des institutions, je n'aurais pas le même sentiment. Hein. Jacques Chirac a plutôt tourné en partie le dos à la parenthèse gaulliste. La dissolution de 1997, c'est le contraire des conceptions du général de Gaulle. Un an avant, Chirac avait dit la dissolution de convenance, c'est pas dans les institutions de la Ve République. On ne dissout que s'il y a une crise. Et puis, quelques mois après, il dissout alors que rien ne l'y oblige, et il perd les élections. Et il va faire 5 ans de cohabitation. Imaginez le général de Gaulle fut 6 mois de cohabitation avec François Mitterrand s'il avait perdu les élections législatives de 1967. Inimaginable en la matière. Et puis, le quinquennat, Chirac se le fait un peu imposer, il faut bien le dire, par les socialistes, et une alliance des socialistes et de Giscard d'Estaing pour lui imposer ça. Il n'en voulait pas vraiment. Mais là aussi, c'est pas tout à fait le gaullisme. Et enfin, la dénonciation, si vous me permettez d'un mot, la fameuse dénonciation des responsabilités de l'État français dans la déportation des Juifs et des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle s'y était toujours refusé. Parce que pour lui, la vraie France, la seule France, c'est la formule du général de Gaulle, elle était à Londres, elle n'était pas à Vichy. Et donc, c'est l'État français qui avait commis l'irréparable selon la formule de Chirac, mais c'est pas la France. Or, Chirac, dans son discours, dit « la France, ce jour-là, commet l'irréparable ». Donc là, il y a quelque chose de divergent, mais il faut reconnaître aussi que Chirac est le premier chef d'État qui n'était pas adulte pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui pouvait s'affranchir d'une certaine lecture de l'histoire.
Mais où sont ses successeurs aujourd'hui, et y a-t-il une succession politique à Jacques Chirac ?
Je dirais que c'est très difficile à établir. D'abord, Chirac a échoué à installer des héritiers politiques au pouvoir. C'est-à-dire ses héritiers politiques, d'abord Alain Juppé, qui finalement n'est pas devenu président de la République, même si on a pu croire un moment en 2016 qu'il y parviendrait, ou Dominique de Villepin, qui l'aurait voulu également lancer. Il n'aurait en aucun cas ne souhaitait que Nicolas Sarkozy lui succède. On se souvient de sa dernière formule politique extraordinaire en 2011, allant en Corrèze et disant « Moi, je vote Hollande, sauf si Juppé est candidat ». Alors la famille de Jacques Chirac avait parlé d'humour corrézien ensuite, mais la vérité, c'est ce qu'il pensait profondément. Il ne souhaitait pas que Sarkozy lui succède. Et aujourd'hui, l'héritage est un peu... il n'y a plus grand-chose. Il avait créé, par exemple, en 2002, l'UMP, le grand parti de la droite et du centre uni pour faire des grandes performances. Voyez où en sont les Républicains. L'héritage est un peu dilapidé. Alors, François Baroin peut-être le porter dans les prochaines années. Édouard Philippe peut...
Il a dit qu'il avait beaucoup compté dans sa vie, et dans la vie politique française, et dans sa propre vie, Édouard Philippe.
Absolument. Édouard Philippe et François Baroin sont finalement ceux qui pourraient le plus considérer qu'ils s'inscrivent dans la lignée de Jacques Chirac.
Mais est-ce que cette popularité de Jacques Chirac que l'on constate, est-ce que c'est un signe encourageant pour ses héritiers du parti Les Républicains, un parti, on le sait, qui est en piteux état ?
Écoutez, la popularité de Jacques Chirac, elle vient d'abord de l'émotion, du respect dû à la mort et à la maladie de Jacques Chirac, comme je l'ai dit. Elle renvoie aussi à une période où la politique comptait beaucoup dans la vie des gens, où il y avait des militants. Il y avait des centaines de milliers de militants. Aujourd'hui, où sont les centaines de milliers de militants des partis politiques? Il n'y en a plus. Donc la politique, c'était quelque chose de très fort. Et puis on remercie Jacques Chirac d'une certaine façon d'avoir essayé de conserver intact le pacte social et républicain en France. Ça compte. Alors que depuis des années, il faut faire des réformes. Et le pacte républicain, il est un peu atteint par les divisions, par les clivages. Donc c'est aussi une façon de dire cette période-là, finalement, elle était en partie plus heureuse que celle que nous vivons, où la France était plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Jérôme Jaffray, est-ce qu'il y a des points communs entre Emmanuel Macron et son lointain prédécesseur, Jacques Chirac ?
Alors, j'aurais tendance à dire qu'ils sont à l'opposé, à la vérité. Mais Emmanuel Macron a prononcé l'éloge de Jacques Chirac, c'était bien le moins, avec de belles formules. Il l'a qualifié de grand Français libre. Or, les Français libres, c'était les Français autour du général de Gaulle. Il a dit qu'il nous ressemblait, qu'il nous rassemblait. Mais en même temps, d'abord, c'est pas la même génération. Quand Chirac rend hommage à Mitterrand en 96, il peut dire « nous avions une relation singulière ». Car ils se sont combattus, Chirac a été le premier ministre de Mitterrand... Chirac est le successeur de Mitterrand à cette époque-là. Pour Macron, rien ne joue. Et puis Macron, il s'est engagé, lui, dans des réformes profondes. C'est frappant de constater que, par exemple, la réforme des régimes spéciaux et des retraites, Macron essaye de la faire aujourd'hui, là où Chirac a échoué. Donc le réformateur de Macron, il peut pas considérer que Chirac lui montre la voie sur ce terrain-là. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de distance quand même sur le plan du contenu de l'action politique entre les deux présidents.
Jérôme Jaffray était l'invité de France Inter ce matin, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci beaucoup.